Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du vendredi 29 novembre 2019. En direct de Washington, Edressa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Guinée, remise en liberté provisoire de 13 membres du Front National pour la défense de la Constitution.
Journée sans travail aujourd'hui à Goma suite à une série de tueries et de manifestations anti-ONU à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo.
Au Gabon, 8 personnes incarcérées dans le cadre d'une opération anticorruption.
Le président américain Donald Trump annonce la reprise des négociations avec les talibans lors d'une visite surprise hier en Afghanistan.
L'Irak a vécu hier l'une de ses journées les plus sanglantes en 2 mois de contestation contre le pouvoir avec la mort de 37 manifestants.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Guinée, le juge de la cour d'appel de Conakry a accordé hier soir une liberté provisoire aux 13 membres du Front National pour la défense de la Constitution, à l'origine des manifestations monstres contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Ces protestations secouent la Guinée depuis la mi-octobre. De Conakry, correspondance de Zakaria Camara.
À l'ouverture de l'audience, les avocats de la défense ont formulé une demande. Je vous prie de bien vouloir mettre nos clients en liberté en attendant la prochaine audience. C'est à ces termes que Maître Mohamed Traoré s'est adressé au juge. Sa demande a même été soutenue par le procureur. Le ministère public n'est pas seulement pour punir, mais il cherche aussi à éduquer, donc qu'il plaise à la cour d'accorder cette liberté provisoire à ses pères de famille, a déclaré le procureur Alassane Baldé. Après quelques minutes de suspension, le président de la cour accorde la liberté provisoire aux membres du FNDC et renvoie l'audience au 5 décembre prochain. Le coordinateur national du Front National pour la défense de la Constitution et ses collègues avaient été jugés et condamnés en première instance pour, entre autres, manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Le groupe djihadiste État islamique a affirmé hier avoir provoqué la collision entre 2 hélicoptères français qui a coûté la vie à 13 soldats lundi au Mali en forçant un des appareils à battre en retraite après une embuscade. La collision a eu lieu lors d'une opération de combat de nuit contre des djihadistes dans le sud du pays, dans un secteur où la force française Barkhane mène régulièrement des opérations contre les groupes armés, dont le groupe État islamique au Grand Sahara.
En République démocratique du Congo, la société civile de Goma a décrété ce vendredi une journée sans travail après une série de massacres commis par les ADF contre les populations civiles de Beni et des manifestations anti-ONU dans la région. De Goma, correspondance de Charlie Kassereka.
Les organisateurs de cette action disent qu'ils veulent rendre hommage aux victimes des massacres à Beni et apporter leur soutien aux populations de cette partie de la province du Nord Kivu. Aucune activité ce vendredi à Goma donc. Marché et services de l'État seront fermés, nous dit Marion Gabo, le président de la coordination Société Civile, ville de Goma.
Après avoir constaté 14 cas de tuerie en l'espace de 1 mois et qui ont coûté la vie à 80 personnes tuées lâchement par machette dans la ville et territoire de Beni, nous ne pouvons pas rester insensibles. Nous demandons à la population de la ville de Goma de porter les habits de couleur blanche, signe d'espoir et de paix, qu'il n'y ait pas transport en commun, qu'il n'y ait pas école, qu'il n'y ait pas marché pour se joindre, n'est-ce pas, aux populations de la ville de Beni. Pendant ce temps, les parents doivent apprendre aux enfants les conséquences de l'insécurité.
Ces jeudi, des tensions ont été enregistrées dans la ville de Goma pour la 4e journée consécutive. On signale d'ailleurs au moins 2 personnes tuées dans ces échauffourées avec la police. Charlie Kassereka, Goma, VOA Afrique.
Au Gabon, 8 personnes ont été placées hier en détention provisoire dans le cadre d'une vaste opération anticorruption touchant des proches de l'ancien homme fort de la présidence, Brice Lacruche-Alianga. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Des poursuites sont exercées contre des compatriotes pour des faits de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux, a annoncé hier soir le procureur de Libreville, André Patrick Ropona, à la télévision nationale. Ces dernières semaines, une vague d'interpellations sur fond de soupçons de corruption et de malversations financières secoue le Gabon. Elles ont commencé après le limogeage de M. Lacruche à la direction du cabinet du président Ali Bongo Ondimba. Il occupait ce poste depuis plus de 2 ans et il n'avait cessé de gagner en influence après un accident vasculaire cérébral AVC de M. Bongo en octobre 2018. Ce pouvoir grandissant a suscité de très nombreuses critiques, notamment au moment où M. Lacruche plaçait plusieurs de ses proches à des postes clés. Au cœur de l'enquête en cours figure la gestion d'une entreprise publique, la Gabon Oil Company, GOC, où 85 milliards de francs CFA, 129 millions d'euros, se seraient volatilisés selon un article publié mercredi par le quotidien pro-gouvernemental L'Union. L'administrateur directeur général de cette entreprise, Patrice Tanassa, proche de M. Lacruche, fait partie des personnes incarcérées, a confirmé à l'AFP son avocat Jean-Paul Moubou.
En Égypte, le photojournaliste Hossam El Sayed et son épouse, la journaliste indépendante Solafa Magdi, ont été arrêtés mardi au Caire avec l'avocat Mohamed Salah. Ils sont accusés de liens avec un groupe terroriste, ont indiqué jeudi leurs avocats sur fond de répression de la liberté de la presse en Égypte. Le parquet général de la sûreté de l'État les a accusés d'avoir rejoint un groupe terroriste non précisé et en ce qui concerne Mme Magdi, d'avoir également propagé de fausses informations, a indiqué à l'AFP l'avocat du couple.
Deux homosexuels ont été condamnés hier à 15 ans de prison en Zambie, un pays d'Afrique australe, à la législation ultra-conservatrice et répressive à l'encontre de l'homosexualité. Les prévenus avaient été reconnus coupables l'année dernière d'avoir commis des actes contre nature sur la foi du témoignage d'une employée d'hôtel. Le rappel contre cette décision a échoué et ils ont été condamnés par le même tribunal jeudi.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Afghanistan, bientôt la reprise des négociations avec les talibans, des négociations qui avaient été interrompues en septembre. Le président américain Donald Trump l'a annoncé hier lors d'une visite surprise dans ce pays, Abdourahman Dia.
Le voyage de quelques heures du président Trump, son premier dans le pays, avait été gardé secret jusqu'après son atterrissage pour des raisons de sécurité. Il a eu lieu à l'occasion de la fête américaine de Thanksgiving. Trump a indiqué, après une rencontre avec son homologue Ashraf Ghani, que les talibans veulent maintenant un cessez-le-feu, une condition posée par Washington avant toute reprise des discussions. Nous resterons tant que nous n'aurons pas d'accord ou jusqu'à ce qu'on ait une victoire totale, et ils veulent vraiment trouver un accord, a précisé le locataire de la Maison Blanche. Avec des soldats américains pour ce qui est la plus grande fête traditionnelle américaine, Donald Trump a posé pour des photos et servi de la dinde avant de s'adresser à eux dans un grand hangar.
Et le président Trump leur a dit avoir fait des milliers de kilomètres pour remercier les troupes américaines et leur rappeler que tout va très bien et que l'Amérique est plus forte économiquement qu'elle ne l'a jamais été.
L'Irak a vécu ce jeudi l'une de ses journées les plus sanglantes en 2 mois de contestation contre le régime en place. 37 manifestants ont été tués hier dans la répression et des violences principalement dans le sud où des institutions dont le consulat d'Iran ont été attaquées. Selon un bilan de sources médicales et policières, plus de 390 personnes, en grande majorité des manifestants, ont été tuées et quelques 15 000 blessés depuis le début de la contestation. Les protestataires réclament la refonte du système politique et le renouvellement d'une classe dirigeante jugée corrompue.
Le président français Emmanuel Macron a assumé hier ses propos controversés sur l'état de mort cérébrale de l'OTAN en appelant l'alliance militaire à se concentrer sur les enjeux stratégiques, en particulier la lutte contre le terrorisme. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
J'assume totalement d'avoir levé les ambiguïtés, a déclaré le chef de l'État français à l'issue d'un entretien avec le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg à l'Élysée. Les deux hommes ont affiché leur volonté d'assurer le succès du sommet des dirigeants des 29 pays membres de l'OTAN mardi et mercredi à Londres à l'occasion des 70 ans de l'Alliance Atlantique. La préparation de cette réunion a été troublée par Emmanuel Macron qui dans un entretien a pointé du doigt une mort cérébrale de l'OTAN. Cette mise en cause frontale a été aussitôt dénoncée par Washington, Berlin, Londres, Varsovie et Ankara. Le locataire de l'Élysée dit les avoir tenus suite au constat d'une déconnexion criante et inacceptable lors des deux derniers sommets de l'OTAN qui ont été uniquement consacrés à savoir comment on pouvait alléger le coût financier pour les États-Unis, de loin le principal contributeur de l'Alliance. Alors que des questions stratégiques sur la paix en Europe, la relation avec la Russie, le sujet de la Turquie ou sur qui est l'ennemi de l'OTAN n'ont pas encore été résolus. Il fallait peut-être un wake-up call, une alarme. Il a été donné et je me félicite que la priorité est plutôt de réfléchir à nos finalités et nos objectifs stratégiques, a-t-il indiqué. Selon l'Elysée, Emmanuel Macron aura à Londres un entretien avec Donald Trump. Il rencontrera Recep Tayyip Erdogan en compagnie d'Angela Merkel et Boris Johnson mardi avant le sommet de l'OTAN.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Le Soudan et le Soudan du Sud ont convenu de prolonger jusqu'en 2022 un accord pétrolier permettant au Soudan du Sud d'exporter son brut via les ports de son voisin du Nord. Ils sont aussi parvenus à un accord sur le redémarrage du bloc de champs pétrolifères TAR et la poursuite des travaux techniques sur la deuxième phase des champs pétrolifères de Unity et de Touma dans le Sud. Le Soudan, qui a perdu la plus grande partie de sa richesse pétrolière lors de la sécession du Soudan du Sud en 2011, souhaite continuer à tirer profit des exportations de pétrole de son voisin par ses pipelines et ses ports de la mer Rouge afin de relancer son économie en ruine. Chevron vend ses 40% de participation dans deux blocs pétroliers et gaziers offshore qui produisent environ 6200 barils de pétrole par jour au Nigeria. Les actifs contiennent aussi 2,8 milliards de pieds cubes de réserves de gaz non développées. Cette cession s'inscrit dans le plan de la société à céder des actifs vieillissants pour se concentrer sur sa production en forte croissance aux États-Unis. Pour terminer, le bénéfice avant impôt de la Banque de Kigali au Rwanda au troisième trimestre a augmenté d'environ 59% à plus de 16 millions de dollars grâce à la croissance de son portefeuille de prêts. La banque exploite 68 succursales et une entreprise d'assurance. Elle est en négociation pour racheter l'assureur local Sonarua.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Début ce soir de la phase de groupe en Coupe africaine.
Oui, en Ligue des champions, le groupe B entre en lice ce soir avec les oppositions Étoiles du Sahel Al Ahly à Rades et Al Hilal du Soudan, Platinum FC du Zimbabwe à Omdurman. Toujours ce soir, les Congolais de l'AS Vita Club se déplacent en Algérie pour affronter la JS Kabylie. À suivre ce samedi au stade Mohamed V de Casablanca, le choc Raja Espérance de Tunis, championne en titre. À Lubumbashi, la rencontre tout-puissant Mazembe Zamalek vaudra son pesant d'or. À eux seuls, les deux clubs comptent 10 titres de Ligue des Champions, soit 5 chacun. Duel au sud du continent entre Mamelodi Sundowns et Petro Luanda.
Ce sera également la première journée en phase de poule de la Coupe CAF.
Al Nassr de la Libye reçoit le Djoliba Athletic Club de Bamako ce dimanche. Un match délocalisé au Caire en Égypte donc. Pour le coach du Djoliba AC, tout est fin prêt pour affronter le club libyen.
Nous allons nous concentrer sur le gazon vert et de pouvoir nous battre pour faire honneur à toute la nation du Mali. Et je sais que ces jeunes gens, ils sont prêts. Dans n'importe quelle adversité, ces jeunes gens vont répondre présent. Nous ne vendons pas la peau de l'ours avant d'y aller, mais sachez que nous irons en conquérant, nous irons en grand guerrier pour défendre les couleurs du Djoliba. Je veux gagner les matchs et le reste on verra à la fin. La jeunesse de mon équipe est un atout.
Georges Kouadio, coach du Djoliba AC, au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Infantino veut une Ligue africaine et 1 milliard pour les stades.
Le président de la FIFA l'a affirmé lors d'une visite à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, à la faveur des 80 ans du tout-puissant Mazembe. L'un des plus grands clubs d'Afrique, Gianni Infantino, a aussi souhaité la création d'une Ligue africaine avec les 20 meilleurs clubs d'Afrique. Une Ligue peut générer au moins 200 millions de revenus, ce qui la place dans le top 10 mondial du jour au lendemain, a assuré le président de la FIFA aux côtés de Moïse Katumbi, président du TP Mazembe. Selon Infantino, l'enjeu est d'arrêter le départ des joueurs africains vers les autres championnats. Le président de la FIFA est attendu ce vendredi à Brazzaville.
Eric Bailly a repris l'entraînement.
Oui, absent depuis le 25 juillet, suite à une blessure contractée avec son club Manchester United, lors du match contre Tottenham, le défenseur central ivoirien souffrait d'une blessure au genou. Eric Bailly a finalement retrouvé le camp d'entraînement des Red Devils après une préparation individuelle, déjà absent de longues semaines en fin cette saison dernière et privé de la CAN en Égypte, eh bien le champion d'Afrique 2015 est annoncé pour le 26 décembre prochain, soit le début des hostilités du Boxing Day en Premier League.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, s'est entretenu à Niamey avec des chefs Touareg de la région de Kidal, dans le nord du Mali, qu'il avait récemment accusé d'être une menace pour la stabilité du Sahel. Pour le journaliste Moussa Aksar, spécialiste des questions de sécurité, Mahamadou Issoufou s'est rendu compte qu'il avait commis, je cite, « une bourde » avec sa sortie sur Kidal, joint à Niamey par Bagasikoura, notre confrère Moussa Aksar.
Le président Issoufou a eu à faire une bourde, si on peut l'appeler ainsi, quand il a accusé certaines personnalités de Kidal d'être derrière les attaques perpétrées le long de la frontière nigérienne. Donc il y a eu un tollé au sein de la communauté Touareg du Niger et du Mali, et c'est pour cela que le président Issoufou s'est ravisé et il a reçu ces personnalités-là, et Touareg, ces personnalités maliennes Touareg au Niger.
Est-ce qu'on a une idée de ce qu'ils se sont dit?
Selon nos informations, c'est juste pour... Il y a eu des émissaires au départ. Il y a eu des émissaires qui ont rencontré ces personnalités Touareg maliennes pour les amener à la raison. Et c'est ensuite que le président Issoufou les a reçus pour une réconciliation. Et vous avez suivi des informations de la présence où il est dit que l'incident est clos.
Et qui est venu à Niamey? Qui était à la rencontre?
Bon, il y a eu plusieurs personnalités. Les leaders qui étaient proches au départ de Yad Agali. Et il y a le nouveau secrétaire général du mouvement de HCIA.
Est-ce qu'il faut voir aussi dans le mécontentement Touareg ces attaques qui ont eu lieu récemment à la frontière entre le Niger et le Mali?
Oui, en fait, c'est pour un peu atténuer cette situation le long de la frontière entre le Niger et le Mali que le président Issoufou a reçu ses leaders Touareg. Et donc, ces attaques qui sont perpétrées ne sont pas du fait de ces anciens rebelles Touareg. Donc, ce sont des terroristes qui ont perpétré ces attaques-là au niveau de la frontière nigéro-malienne.
Est-ce à dire qu'il n'y aura plus de pression de Niamey sur la question de Kidal?
Oui, il y aura des pressions souterraines. Il y a eu toujours des pressions souterraines pour demander à ce que vraiment Kidal soit sécurisé. Mais avec cette rencontre, on pense que, comme l'a dit le président Issoufou, l'incident est clos et nous souhaiterons que cet incident soit clos pour qu'il n'y ait plus des attaques le long de cette frontière.
Qu'est-ce qui en réalité sous-tend une telle initiative de la part du président nigérien?
Oui, après cette bourde, le président Issoufou a compris qu'il ne peut pas se battre sur plusieurs fronts. Là, il a ouvert un front avec les notables de Kidal en faisant cette déclaration-là. C'est pour cela qu'il s'est ravisé pour faire la paix avec ces notables de Kidal et concentrer ses efforts sur les terroristes qui sont en train d'engranger des résultats le long de la frontière entre le Burkina, le Mali et le Niger.
Notre confrère Moussa Aksar, joint à Niamey par Bagassi Koura.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Niger toujours, les combattants repentis de Boko Haram sont regroupés dans le premier centre nigérien de déradicalisation, de formation professionnelle et de réinsertion sociale des déserteurs. Leur expérience au sein de ce groupe djihadiste nigérian est racontée dans un ouvrage « Voyage au cœur de Boko Haram ». Pour en savoir davantage, Eric Manirakiza a joint à Abidjan Sédik Abba, co-auteur du livre.
Boko Haram a utilisé un certain nombre d'arguments, à la fois la possibilité pour les jeunes, en s'enrôlant dans ses rangs, de pouvoir gagner un peu d'argent. Les premiers qui ont été recrutés dans la région de Difa, par exemple, sont partis parce que ils espéraient que Boko Haram leur donne une moto, leur donne une prime d'arrivée, leur donne une épouse, etc. Donc il y a toute cette dimension-là qui a permis à Boko Haram d'intéresser les gens, de les intégrer, de leur miroiter un avenir meilleur. Ensuite, il y a maintenant une autre catégorie de combattants que nous avons trouvés dans les rangs de Boko Boko Haram. Il y a celle des gens qui ont adhéré à l'idéologie religieuse de Boko Haram, qui ont estimé que Boko Haram avait un discours idéologique qui leur convenait et qui ont rejoint les gens de Boko Haram. Et puis à côté, il y a aussi des gens qui sont partis dans Boko Haram par calcul. Une fois dans les rangs de Boko Haram, il y a une organisation du travail qui fait que, bon, certains sont producteurs agricoles, certains sont intermédiaires, revendent le butin de guerre que Boko Haram a conquis, certains sont infirmiers, certains sont mécaniciens dans les rangs de Boko Haram. Il y a toute cette spécialisation du travail. Et à chaque fois que les nouvelles recrues arrivent, on essaie de les mettre dans une catégorie, soit ils sont des combattants à qui on donne une instruction militaire, soit ils sont producteurs agricoles, on leur confie la production de la nourriture pour l'autoconsommation du groupe et pour la revente sur le marché, soit ils ont une activité. Donc c'est tout ça qui explique pourquoi Boko Haram a pu continuer à recruter des jeunes dans les quatre pays, parce qu'il n'y a pas que le Nigeria, Boko Haram a recruté des gens au Niger, a recruté des gens au Tchad, a recruté des gens au Cameroun.
Est-ce que c'est un mouvement qui jouit encore du soutien au sein de la population?
Non, je pense qu'aujourd'hui, Boko Haram n'a plus d'adhésion populaire parce que ceux qui sont partis et que nous avons interrogés d'ailleurs pour le besoin du livre sont revenus totalement désillusionnés. Ceux qui sont partis en pensant qu'ils peuvent gagner de l'argent, ils n'ont pas gagné cet argent. Ceux qui sont partis en pensant que Boko Haram a des fois une idéologie religieuse à laquelle ils peuvent adhérer sont revenus dessus eux aussi parce qu'ils se sont aperçus que dans le mouvement il y a beaucoup de brutalité et il n'y a pas la promotion des valeurs de l'islam puisque le mouvement fait des exactions, tue des innocents, exécute des gens, égorge même des gens qui n'ont rien fait. Donc aujourd'hui, il y a une vraie rupture entre Boko Haram et les populations. Parce que vous savez que Boko Haram a organisé des raids sur des villages. Et quand ils attaquent un village, ils tuent de façon indistincte. Ils tuent les populations qui n'ont rien fait. Ils dépouillent les populations. Ils leur prennent le peu de biens qu'ils ont aujourd'hui. Tout ce qu'il y a dans la région, il y a plus de peur de Boko Haram que d'estime de Boko Haram.
Ces déserteurs qui sont pris en charge dans ces camps de déradicalisation, est-ce qu'ils ne risquent pas d'être exposés une fois retournés chez eux?
La question est pertinente. Boko Haram interdit à ses militants, à ses combattants, de pouvoir quitter pour rejoindre le programme. Donc, il est évident que pour les gens qui sont des repentis, Boko Haram les considère comme des traîtres. Partir des rangs de mouvement est considéré comme un acte de trahison. Et ceux qui ont été surpris pendant qu'ils essayaient de partir ont été pour la plupart exécutés.
Sédic Abba, co-auteur du livre « Voyage au cœur de Boko Haram ».
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Ici à Washington, l'unité de pharmacologie clinique et de pharmacovigilance de la RDC a présenté les résultats de ses recherches sur le paludisme et Ebola à la 68e conférence de la Société américaine des maladies tropicales, médecine tropicale et hygiène. Eddie Isango a reçu dans nos studios le docteur Sengi Tabaibialiro, directeur de l'unité, ainsi que le professeur Gaston Tona Lutete.
L'équipe congolaise a présenté un produit qui devrait bientôt être utilisé en RDC. Explication du professeur Gaston Tona Lutete.
Nous avions une session sur un produit contre le paludisme sur lequel nous avons travaillé sur notre site et il était question de pouvoir donner la possibilité que ce produit puisse être introduit dans le système de santé de notre pays et particulièrement être utilisé dans le secteur public et privé.
L'automédication devenue l'une des premières causes de la mortalité élevé en Afrique a également été évoqué. Ébauche des solutions avec Dr Nsengi Tamabialiro.
Il faut vraiment agir sur plusieurs niveaux pour pouvoir essayer de résoudre ce problème. C'est un problème d'abord de pauvreté parce que la question de la pauvreté dépasse le cadre purement médical. Il y a plusieurs autres choses qu'il faut faire. D'un point de vue médical, premièrement, c'est essayer de comprendre de manière scientifique qu'est-ce qui se fait. Des études, connaissances, attitudes pratiques. Sinon, on ne saura pas agir. Il faut comprendre, faire des études pour comprendre comment ils le font. Pourquoi les motivations, les déterminants, les caractéristiques de ces personnes qui les poussent à faire cela. Une fois que l'on a ces éléments-là, on peut alors voir dans quel sens il faut orienter les mesures correctrices. Et ces mesures correctrices iront dans plusieurs sens. Vis-à-vis de la population, ce sera certainement, premièrement, l'information. On a eu des idées tout à fait fausses, on a des idées du genre, ce qui est naturel est bon, ce qui est chimique est mauvais. C'est une grosse erreur. On a beaucoup d'éléments scientifiques qui nous montrent ça. De deux, au niveau de la communauté médicale. Nous avons mené une étude il y a quelques temps sur le comportement des patients après avoir reçu une prescription médicale. Nous avons déterminé qu'il y a une responsabilité claire du médecin dans le comportement de son patient. Et donc ça, c'est un message à envoyer chez le médecin pour qu'il puisse aider les personnes. Autre message, c'est un message à adresser au niveau des gouvernants, etc. Mais comme j'ai dit, c'est un message assez complexe qui nécessiterait par exemple l'intervention des anthropologues qui peuvent mieux comprendre les sociétés et pouvoir pourquoi ils recourent à ça, comment ils le font. De notre côté, ce que nous apportons comme information, c'est de dire à tout le monde, attention, ne prenez pas n'importe quel produit pour n'importe quelle maladie. Que ce soit le produit de la médecine moderne, que ce soit le produit de la médecine traditionnelle, quand c'est mal utilisé, ça provoque des dégâts.
L'équipe des pharmacovigilance se félicite de la trouvaille de deux médicaments qui guérissent de la maladie d'Ebola. Elle encourage les gens à les accepter même s'ils sont encore sous étude.
Notre rôle dans cette étude, nous assurer que ces médicaments-là ne provoquent pas de problème chez les patients. Nous ne sommes pas seuls, on travaille avec des collègues américains du NIH, nous analysons tous les problèmes. On est heureux de dire que jusque maintenant, on n'a pas encore ce qu'on appelle un signal. Quelque chose qui tendrait à dire que ces médicaments posent de graves problèmes.
L'unité des pharmacovigilance a rencontré les autorités américaines et a plaidé pour un appui au système sanitaire congolais.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Les Américains ont donc célébré ce jeudi la Thanksgiving, fête d'action de grâce pour les bienfaits survenus dans leur vie au cours de l'année. C'était l'occasion de partager une dinde rôtie en famille. Mais cette fête traditionnelle est maintenant suivie de ce qu'on appelle le Black Friday, le vendredi noir. Rien de sinistre, rassurez-vous. Il s'agit d'un événement commercial de remise très substantielle offerte par les commerçants. Une occasion pour les consommateurs américains de faire, oui, des occasions, en prélude aux achats de fin d'année. Dilly Dico a rencontré à New York des acheteurs.
Tous les trois, nous aimons faire les magasins ensemble pendant Black Friday et parfois on vient juste pour regarder les gens. C'est marrant d'observer les gens pendant Black Friday. Nous buvons des chocolats chauds et nous faisons le tour des magasins pour voir les meilleures offres.
Je n'ai pas d'achat du tout. Non, pas d'achat. Ce que nous faisons, c'est emmener nos petits-enfants voir un spectacle au Radio Music City Hall. L'hiver, nous les emmenons aussi voir une pièce à Broadway et une comédie musicale à l'Opéra Goodspeed. Nous les emmenons également en voyage. Dans deux ans, nous partons en Autriche parce que le plus petit a 8 ans et il ne pourra pas se rappeler de tout si nous partons maintenant.
Ouais, je me réveille tôt. Je suis un lève-tôt. Je vais venir en ville ou ailleurs et foncer à travers les portes des magasins. Et sans mentir, si quelqu'un essaie de me prendre les derniers shorts, je vais leur arracher les mains.
Je vais me rendre au magasin. Oui, j'aime cette frénésie. J'aime toucher, sentir et le fait d'être en magasin, quoi. Je ne suis pas une fan du shopping en ligne.
Je crois que ce sera un mélange des deux, mais surtout du shopping en ligne. Ma femme s'occupe des achats pour tout le monde, sauf pour elle-même. Du coup, je sais ce que je vais lui offrir pour Noël.
Salut les amis, Roger Montou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Zeynab Abdelrahman. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.